Salut, aujourd'hui je parle avec Ghislaine Duboc et on te présente un petit projet tout doux qu'on on prépare depuis plusieurs mois et qu'on va également présenter le 27 janvier prochain. C'est un honneur de partager le micro avec elle aujourd'hui et de te présenter ce projet de cœur. Belle âme et bienvenue dans mon podcast de Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité, tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans ego et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Entrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Salut Ghislaine.
Ça y est, on est arrivé.
Comment vas-tu?
Je vais très bien, très très bien. Oui, c'est le début de l'année alors, bon, il vaut mieux aller bien, l'année va être longue.
L'année va être longue, l'année va être challengeante. Comme tu disais, on va récolter beaucoup de choses qu'on a semées, mais on va avoir aussi beaucoup de changements cette année qui se présentent à nous dans toutes les sphères, hein, je pense.
Oui, je crois que c'est une année qui concrétise ce qui est arrivé il y a quelques années, c'est-à-dire quand on a ensemencé un monde qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Hein, c'est aussi simple. On est dans des cycles. Hein, et c'est le cycle qui met au jour les décisions qu'on a prises. Par exemple, quand on a pris des décisions pour l'hôpital, on voit aujourd'hui les résultats pour l'école, on voit aujourd'hui les résultats pour notre écologie, on voit les résultats. On est dans une année de révélation, si on pourrait dire. Ouais. Et aussi où nos corps vont être touchés dans l'expérience, c'est ça. Jusqu'à présent, on parle toujours de ce qui va nous arriver dans le futur, etc. On a peu d'expérience du corps. Là, par exemple, avec le Covid, mais avec des feux dans certains endroits, avec des tremblements de terre. Il y a beaucoup d'endroits où maintenant les corps ont commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Et quand le corps est touché, l'esprit arrête de rêver, des fois se réveille, et ça lui permet de transformer ses actions pour s'adapter à l'épreuve qu'il a à vivre. Voilà.
Ouais. Les derniers mois, on a parlé beaucoup parce qu'on était bousculés chacune à notre manière et tout. Puis, et c'est là, je me souviens toujours, je me souviendrai depuis septembre, hein, on disait, OK, on va créer quelque chose, il y a quelque chose qui s'en vient. Tu me disais, oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Et finalement, ça s'est révélé à toi. Et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle on fait ce vidéo. J'aimerais que tu nous parles peut-être un peu une prophétie. Qu'est-ce que c'est une prophétie? Parce qu'on parle de prophétie, toi et moi et tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'une prophétie en soi, comparaison avec une vision qu'on parlait?
Pour moi, en tout cas. Hein, ouais. Ce que comme différence entre une prophétie et une vision, c'est qu'une vision est attachée à une expérience personnelle. J'ai la vision de ce qui va arriver. Je vois en 2003, par exemple, alors que je connaissais pratiquement rien d'informatique, j'avais les visions de ce qui allait arriver et j'ai écrit un livre, mais vraiment presque un état d'inconscience totale parce que je comprenais à demi-mot ce que je disais et ce que j'écrivais. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai écrit est arrivé. Mais c'est une vision. Une prophétie, ça touche un regard auquel l'ensemble d'une population à adhérer. Hein, quand on se retrouve avec Nostradamus, c'est quelqu'un qui l'a dit, mais il le met dans un contexte où il va être cautionné par beaucoup, beaucoup de gens qui attendent la révélation qu'il amène. Et chez les Indiens, par exemple, on va trouver énormément de prophéties, mais dans toutes les cultures, il y a quelque chose dont l'ensemble attend sa réalisation. C'est ce qui est très, très différent, c'est qu'il y a une adhésion qui souvent amène à ce que nous structurons notre réalité, où on structure aussi le chemin à parcourir en fonction de cette prophétie auquel des fois on n'attache pas d'importance et pourtant elle est encore là. Et elle nous construit hein, quelque part. On a par exemple la prophétie du monde d'ailleurs. Hein, on a le sentiment qu'ailleurs, c'est le paradis, ailleurs, il se passe quelque chose. Le ailleurs a plein d'histoires et de prophéties où ailleurs, ailleurs, c'est le bonheur. Et on voit que la conquête spatiale et cette idée qu'on va aller peut-être mettre un village sur la Lune et après sur Mars, où on va ensemencer le monde, fait partie de cet ailleurs imaginaire qui a des centaines et des centaines d'années. Et c'est un rêve partagé. Sauf qu'à un moment donné, quand tous les ingrédients sont exactement associés à l'histoire, à l'imagerie de la prophétie, c'est là où ça devient quelque chose de... je veux dire, étonnant et perturbant. Oui. Parce qu'on y est. On y est, c'est des fois effrayant. Hein?
Oui, assez, assez. Et comment la prophétie peut faire des changements pour soi et aussi pour la société? Parce que c'est un peu le but, là, tu nous parles de cette prophétie, tu as reçu... beaucoup de connaissances, d'enseignements. Au-delà de la vision, ça en est devenu une prophétie. Comment est-ce que ça peut faire des changements? Parce que c'est ce qu'on veut. Je pense qu'on attend tout un changement, je pense, profondément.
Il y avait deux choses qui m'étonnaient. La première, c'était de voir que autour de moi, dans les groupes, etc., tout le monde me parlait de prophétie, mais qui n'était pas de chez nous. Alors, à un moment, je dis, mais pourquoi nous... on ne va pas avec nos prophéties. Et en rigolant, il y en a un qui me dit, mais attends, si c'est Nostradamus ou l'Apocalypse, franchement, tu n'as pas envie d'y aller, quoi. C'est l'horreur.
Tellement. Et tellement.
Ça m'avait vraiment étonnée. J'avais dit, bah, écoute, ce n'est pas faux. Alors, il me dit, alors que tu vois, tu as la prophétie dans certaines populations où on te dit que tu vas avoir un choix à faire. Il y a aussi ça, hein, le choix de ceux qui vont s'en sortir, ceux qui ne s'en sortiront pas. Enfin, bref, cette idée d'élu quelque part, hein, au moment où on va passer dans un autre monde, hein, ça aussi, on le trouve dans les prophéties. Oui. Mais ce qui, d'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui se prennent pour des élus n'ont rien à faire que les gens restent à terre du moment qu'eux pourront s'envoler. Hein, voilà. C'est à nouveau lié à la prophétie. Et donc, j'écoutais ça et en parallèle, mon attention a été quand même éveillée sur toutes ces femmes dans le monde entier, différentes, dans des domaines qui parfois n'étaient pas coutumiers aux femmes, mais qui pouvaient se battre avec un verbe différent, des actions différentes. Et j'ai commencé à aimer voir ce féminin s'exprimer et aussi agir pour la terre, agir pour le vivant, pour le droit, pour cette tolérance hein, que l'on cherche, et toutes ces valeurs féminines, quelque part, hein, parce qu'elles étaient incarnées par du féminin. Il y a des hommes qui les ont aussi, bien sûr. Mais ça m'a éveillée. Et en réunissant ces fameuses prophéties catastrophes ou d'élitistes, etc., et toutes ces femmes qui, au contraire, disent « nous », sont dans ce pluriel, hein, tellement vivifiant quand elles sont. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, à un moment, ça a dû me travailler. Et quand j'étais avec une amie, elle m'a tellement, qui est une chamane, elle m'a tellement bouleversée dans sa façon de me regarder quand elle me dit « Et toi, ta prophétie, c'est quoi ?» Que peut-être qu'à ce moment-là, oui, s'est passé quelque chose. Ouais. Peut-être que dans ce voyage, il y a eu quelque chose qui s'est éveillé et je me suis retrouvée, comment dire, je me suis retrouvée à la vivre, cette prophétie, et à comprendre combien elle serait chère pour nous. Parce que ça nous fait voyager, mais ça nous fait voyager d'abord à l'intérieur de soi.
Ouais.
Car celle que j'ai vue, et que je vous raconterai le jour de la conférence, il faut bien comprendre le mystère, sinon ça ne serait pas intéressant. Exactement. Donc celle que j'ai vue et que j'ai vécue, en quelque sorte, m'a paru tellement... pleine d'espoir, d'énergie, mais surtout une clé pour pouvoir se transformer et plus rapidement s'adapter à la traversée que nous avons à vivre.
Ouais.
Et quand on a fait cette route, je me suis rendu compte que les femmes que j'admire, qu'elles aient 15 ans ou qu'elles aient 80, qui aujourd'hui se lèvent, je me dis, ah, elles ont pris la route de cette prophétie, sans le savoir sûrement. Alors, on a eu envie, hein, puisque quand on en a parlé toutes les deux, on s'est dit, bon, on va en faire quelque chose.
Oui.
C'est un cadeau.
Je suis tellement heureuse, je suis tellement honorée, je suis tellement... je n'ai pas le mot, mais que tu aies envie de partager ça, parce que c'est exactement ça qu'on a besoin. La médecine là, de 2022 qu'on a besoin, c'est exactement ce genre de médecine. C'est comme tu dis, c'est un voyage vers l'intérieur pour par la suite pouvoir la partager à notre tour.
C'est un voyage vers l'intérieur, mais comme la nature profonde d'une prophétie, c'est ça. C'est ce qui va se passer au niveau du un va transformer le tout. C'est-à-dire que quelque part, l'ensemble de l'humanité va faire le même voyage que vous. Peut-être que la route à la fin ne sera pas la même, mais on est confrontés tous à cette réalité qu'on a devant les yeux depuis quand même quelques milliers d'années. C'est ça qui est drôle dans cette prophétie. Et oui, je crois qu'aujourd'hui, le temps du désespoir, ça n'existe plus. On n'en a pas les moyens.
On n'a plus le temps.
Absolument trouver le temps, justement, de la réalisation.
Oui. Hein,
de le pire est là, le meilleur est à côté, soyez-en sûrs. Donc, chercher la lumière, c'est ne pas avoir peur de la nuit. Et je crois que cette prophétie, c'est aussi la route du courage. Hein. Alors, le courage, on ne l'achète pas au supermarché. Mais quand on y va avec la poésie et le cœur qu'elle amène hein, dans sa démarche, eh bien, on découvre qu'on s'est laissé piéger depuis plusieurs générations et qu'on peut changer ça. Hein. On peut être la génération qui change, la génération qui fait faire un autre pas à l'homme, pas plus grand, pas plus haut, pas plus extraordinaire, mais un autre pas peut-être plus confortable pour voilà.
Oui, puis j'aime beaucoup quand tu parles de courage. Le courage, la foi, c'est quelque chose, comme tu dis, on n'achète pas au supermarché. C'est quelque chose qu'on doit développer et qu'on doit continuer de développer et tout ça. Puis je pense que le voyage, justement, qu'on souhaite offrir, que tu vas nous faire vivre pendant un an, je pense que ça va vraiment venir travailler ça pour voir peut-être la vie différemment et se positionner différemment aussi.
Oui, et c'est ce que je trouve de sympathique dans la démarche qu'on fait, c'est qu'on va faire cette conférence hein, qui devient mystérieuse avec tout ce qu'on a dit là, mais en fait, quand vous aurez les clés de cette prophétie, vous pourrez très très bien vous arrêter là et faire votre petit voyage à votre façon, si vous avez votre technique, etc. Et ça ira très bien. Mais vous pouvez aussi faire ce que nous avons décidé, c'est de créer un grand groupe, mais facile, hein, quelque chose de simple, une fois par mois, enfin deux jours, hein, une fois avec toi, Gaïa, qui mettra les rituels et moi qui vous donnerai la lignée. Mais sur 12 mois, on fera un voyage pour celles qui sont intéressées, parce que c'est important de savoir que le jeu ne peut pas quitter le nous. Hein. C'est vraiment ça la route aujourd'hui. Comme inclus dans le monde et pas celui qui sait, et le monde est en dessous. Donc, on avait envie de le partager aussi avec un grand nombre, pas ce schéma d'élus, mais plutôt le schéma d'une équipe qui se met à dire « Ah bah si, on va essayer, on va voir si ça marche. »
Voilà, on va nous offrir ensemble, on va y aller ensemble. Oui, parce que autant les gens qui vont participer, autant que nous deux aussi, on évolue ensemble dans ça. Comme tu dis, c'est le jeu au sein du nous, c'est le jeu nous ensemble. Donc, moi, j'ai dit, il y a plein de choses, je ne sais pas à quoi m'attendre vraiment, mais je sais qu'il va y avoir transformation. Et ça, j'ai hâte.
Oui, et c'est, je crois, le grand défi d'aujourd'hui, c'est du un au nous. Cette façon plurielle de revoir le monde et d'avoir ce souci du monde. Vous voyez, ce matin, je faisais une vidéo sur le soin. Hein. Quand je suis propriétaire, pour les Indiens, ça veut dire prendre soin. Hein. Ce n'est pas avoir un objet sur lequel on peut faire tout ce qu'on veut parce que c'est à moi, je le cache, je le détruis, j'en fais ce que je veux. Non, j'en prends soin. Parce que je t'adopte, je suis à ton service, que je sois un environnement, un animal ou une personne. Et en fait, ce retour à cette conscience de la bienveillance de l'être humain face à son environnement, eh bien, on ne peut pas l'acquérir comme ça, souvent. Il faut vraiment faire un travail parce que nous sommes dans un conditionnement qui agit sur nos peurs. Et nous croyons souvent où la sécurité, que la sécurité se trouve là où, en fait, il n'y a que l'ignorance qui est. Voilà.
Grande sagesse, merci. Donc, on se retrouve pour la conférence le 27 janvier avec oui. Joie. Il va y avoir un beau groupe, puis ça va être génial. Comme Ghislaine l'a dit, il y a des gens qui vont repartir avec des outils et qui vont pouvoir faire le travail de par eux-mêmes, ou d'autres qui vont peut-être se joindre à nous pour un voyage initiatique sur un an. Mais quoi que vous choisissez, quoi que vous veniez prendre de la conférence, ça va être un beau cadeau que tu nous offres. Et merci, j'ai déjà très hâte. Vraiment.
Moi aussi, j'ai vraiment hâte, tout en ayant un petit peu peur. Hein,
parce que je suis pareil, c'est une excitation qui comme...
C'est impressionnant des fois d'être le dépositaire d'une expérience que l'on pense être capable de servir le collectif. Hein. Il y a un côté difficile hein, pour en garder l'humilité et la joie sans avoir la pression de quelque chose d'extraordinaire. Alors j'espère que je vais la garder jusqu'au bout et que vous en profiterez. Voilà.
C'est certain. J'ai très hâte de commencer. Puis si vous avez des questions, les gens, vous savez, on est hyper disponibles. Vous pouvez nous écrire si vous voyez ceci en commentaire sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme ou n'importe où. N'hésitez pas à nous poser des questions. Ghislaine et moi, c'est quelque chose qui est... On est très accessible de ce côté-là. Donc, posez-nous vos questions, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis sinon, on se donne rendez-vous le 27 janvier.
Allez, au 27 janvier. En plus, 27, c'était de 9. Hein. C'est tout un cycle.
C'est vraiment le bon chiffre. On l'a choisi à partir d'ici, donc ça va être bon. Allez, je t'embrasse.
Ciao. Au revoir. Bye.
Je t'invite à consulter les détails de ce podcast où tu trouveras le lien pour t'inscrire gratuitement à la conférence du 27 janvier 2022. Tu trouveras également les informations pour le voyage initiatique sur un an. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @GaïaTotal, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Wahe Guru Belam.